Veille de la conférence de Londres sur l'Afghanistan, la France doit-elle envoyer des renforts militaires sur place? Nous parlerons également de la position des centristes aux élections régionales. Rendez-vous avec Hervé Morin dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
Il est 15h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Ici la Corse. Je m'appelle Geneviève, j'habite à Bonifacio. Voilà ce qui s'est passé vendredi. Sur une plage de Bonifacio, ont débarqué 124 migrants d'origine kurde. Ils ont été dans un premier temps très bien accueillis par la municipalité, bien logés dans le gymnase. Et de la part de la population de Bonifacio et de la population corse, de nombreux gestes de solidarité ont été spontanés. Hein. Mais, rapidement, nous avons assisté à un impressionnant déploiement des forces de l'ordre avec sous-préfet, préfet général 2 étoiles. En toute hâte et de manière expéditive, ces gens ont été transférés de la base militaire de Solenzara sur le continent dans, non pas des lieux d'accueil, mais dans des centres de rétention, les enfants y compris. Je trouve bizarre que leur statut de boat people ait été brouillé. Était-ce des clandestins, des sans-papiers? Peu importe, parce qu'il fallait agir vite. Monsieur Sarkozy, il y a en Corse dans quelques jours et il y aura des élections. Mais voilà, sur le continent, les 6 juges des libertés de détention prirent à leur compte leur demande d'asile et leur rendirent leur semi-liberté pour qu'ils puissent présenter leur dossier. Donc, la première étape est gagnée. Reste la suivante, à savoir le respect du droit d'asile. Alors, je vous demande, chers amis, de signer la pétition qui se trouve sur le site internet Awa Basta Jepel. A-V-A-B-A-S-T-A. Alors ce soutien est d'autant plus important que la première réaction du ministre se résume en une seule consigne. Renforcement des contrôles terre, air et mer, c'est-à-dire un Frontex durci. Ce qui représente une remise en cause des conventions internationales maritimes.
Pour le premier Café Repère 2010 à Brignoles, nous allons revenir sur le sujet le plus chaud de la fin de l'année 2009. Le sommet de Copenhague. Le débat sera animé par Georges Baroni, porte-parole de la Confédération paysanne, qui a vécu cet événement de l'intérieur en tant que délégué officiel. Rendez-vous au Café l'Oasis, à Brignoles, ce jeudi 28 janvier, à partir de 19h. Nous partagerons, comme d'habitude, la parole et les victuailles que chacun apportera. Salut Daniel, et salut à tous les AMG.
À propos des retraites, donc, je voulais dire, le calcul des retraites a été fait à l'origine suivant certaines modalités, mais les conditions ont bien changé depuis, et en particulier la productivité des salariés qui passe pour l'une des meilleures du monde. Mais cette productivité ne leur profite pas et est largement confisquée par les actionnaires, et ce d'autant plus que les salaires depuis 1983 ont été déconnectés des coûts de la vie. Surtout que la croissance principalement en haut salaire, ce qui permet de dire que les salaires moyens augmentent. Et enfin, s'il nous manquait une preuve, la crise actuelle a été révélatrice de toutes ces pratiques. Les bénéfices sont privatisés, les pertes mutualisées. Jusqu'à quand? Bonne journée, au revoir.
Donc, je suis Caroline Brunner, je suis enseignante au Collège La Charme à Clermont-Ferrand. Je voudrais parler de Salima et Salma Boulazar, qui ont 18 ans et quelques mois, qui sont d'origine marocaine. Salima a été arrêtée mardi dernier, c'était le 19 janvier, là. Et elle a été emmenée en centre de rétention à Lyon. Alors, sans affaires, sans argent, sans rien. Son nom maintenant est écrit sur le tableau des départs, donc elle est là-bas et elle vit dans l'angoisse. Elle est extrêmement inquiète pour sa sœur Selma, qui était hospitalisée mardi dernier, le jour de l'arrestation, et qui depuis se cache. Ces deux jeunes femmes avaient fait une demande de titre de séjour à leur majorité, c'est-à-dire en avril 2009, et puis elles ont reçu un ordre de quitter le territoire français le 27 juillet dernier. Il y a eu 7 mois pendant lesquels elles n'ont eu aucune nouvelle, et puis voilà, mardi dernier, c'est les policiers qui ont sonné et qui sont venus les arrêter. Il faut savoir qu'elles n'ont plus d'attache réelle au Maroc. Leur père les a jamais reconnues, leur mère ne les a plus en charge depuis 1995. En fait, c'est leur grand-mère qui les a élevées, mais à la mort de la grand-mère en 2004, c'est leur tante qui est installée à Clermont-Ferrand, qui les a accueillis ici en France. Moi, je peux en parler parce qu'elles ont été scolarisées ici dans notre collège en France. Elles se sont battues toutes les deux pour s'intégrer. Et là, et ben, elles avaient décroché toutes les deux un contrat d'apprentissage. Voilà. Donc, une pensée pour Salima, qui est là-bas au centre de rétention, et une pensée pour Selma, qui, quelque part, se cache. Et espère que sa sœur ne sera pas expulsée. Au revoir tout le monde.
Bonjour, c'est mademoiselle Boulazar Salima. Je vous appelle pour expliquer ma situation. J'étais là à l'âge de 13 ans en France jusqu'à l'âge de 18 ans avec ma soeur, ma tante en France. Et un mardi, il y avait les filles qui sont venues chez moi pour me ramener dans un centre à Lyon. Si vous pouvez m'appeler, merci. Au revoir.
Oui, l'équipe de là-bas s'est mise en contact avec cette jeune femme et on vous donnera des nouvelles. Merci pour vos messages qui me parviennent ici au Honduras. Tegucigalpa, de quel pays d'Amérique centrale Tegucigalpa est la capitale? Ah, je viens de vous le dire, du Honduras, mais avouez que Tegucigalpa, c'est pas un nom couramment entendu sur nos antennes et dans nos médias. Or, aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Honduras, un grand jour très sombre pour le Honduras. C'est l'investiture du nouveau président qui prend officiellement ses fonctions. Il y a une grande cérémonie ici à Tegucigalpa, dans le stade, le grand stade de la ville. Pour beaucoup, cette élection est une imposture. Il faut rappeler un peu ce qui s'est passé ici. Si on a le moindre respect et la moindre affection pour ce qu'on appelle la démocratie. Le 28 juin dernier, le 28 juin 2009, Manuel Zelaya, qui est le président élu, est renversé par l'armée, chassé du pays et remplacé par un gouvernement fantoche intérimaire. Très vite, la résistance s'organise contre ce coup d'État. La réprobation internationale est unanime. Le président Barack Obama lui-même dénonce clairement ce coup d'État. Mais dans le pays, la résistance est brutalement réprimée. On parle de 40 assassinats, 120 disparus, 3000 arrestations. La terreur est partout. Or, le 29 novembre dernier, le 29 novembre 2009, le pouvoir fantoche organise des élections. Et là, c'est un piège qui vise à blanchir le coup d'État. Blanchiment de coup d'État, comme on blanchit de l'argent, par exemple. C'est exactement la même stratégie. La résistance est divisée. Faut-il ou non participer? La plupart des pays d'Amérique latine dénoncent la mascarade, mais le président élu, à l'issue de ces élections, est reconnu notamment par les États-Unis d'Amérique. Le président légitime Zelaya est réfugié ici même dans la capitale, dans l'ambassade du Brésil, et se trouve placé sous le coup d'une menace d'arrestation pour haute trahison. C'est absolument ubuesque. Qu'est-ce qu'on reproche à ce président? C'est un cas tout à fait étonnant. Zelaya est un libéral qui a été élu sur un programme libéral, mais qui peu à peu a modifié les choses et est allé vers une politique moins inégalitaire dans ce pays, très pauvre, l'un des plus pauvres de l'Amérique latine. 70% de pauvreté, dont 15% de grande pauvreté. Donc il a mis en œuvre un certain nombre de politiques, notamment une augmentation importante du SMIC, et il est rentré en relation avec le diable, c'est-à-dire avec Hugo Chavez. Et là, ça ne marchait plus, là, ça n'était plus possible. De là, le coup d'État et le retour de l'oligarchie hondurienne. Voilà tout simplement ce qui s'est passé avec la bénédiction en coulisses des États-Unis d'Amérique, de notre bon Obama. Souvenez-vous de l'Obamania. Eh bien voilà, une ombre à une médaille, une ombre considérable dont on ne parlera que très peu, je pense, dans nos médias français. Sinon, il ne faut pas désespérer de tout. Il y a une activité qui est extrêmement florissante dans notre pays. Il y a bien des domaines, des secteurs qui sont en régression, mais il y en a qui sont tout à fait prospères. Prenez par exemple les gardes à vue. Eh bien, les gardes à vue, voilà quelque chose qui ne fait que fleurir et se développer. Et on va revenir sur deux reportages que nous vous avions proposés sur ce thème des gardes à vue, même si les chiffres que nous indiquons, eh bien, sont en augmentation aujourd'hui, comme quoi il ne faut pas désespérer de tout. Les gardes à vue, donc, aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel. Bonjour à tous les AMG. Ici le repère de Marseille, qui se déroulera le mercredi 27 janvier à 19h30 à l'Équitable Café, situé sur le cours Julien à Marseille. Après une intervention de Louis Bartholomé, qui est magistrat honoraire, la question que nous mettrons en débat sera « Allons-nous vers un État policier ?» Point d'interrogation. Bonne journée à tous. Ouais, salut à tous. Déjà, je voudrais dire un grand merci à Pierre, résistant antifranquiste qui, à 90 ans, nous a honoré de sa présence au repère de samedi dernier à Montauroux. Ce soir, avec les gens du repère de Nice, de Grasse, de Montauroux et de Tourette, on descend à Marseille, on va faire un petit tour à Marseille, à l'Équitable Café, où il y a le repère de Marseille, ce sera à 19h. Après, on préparera l'avenue de Colline Serrault et de François Ruffin en mars. À propos de Colline Serrault, je profite d'être à l'antenne pour lui laisser un message. C'est sûr qu'à Nice, il y a 400 000 habitants, alors que dans le canton de Fayence, il y en a que 25 000. Mais on a deux réseaux Colibri, on a deux et bientôt trois AMAP. On a un journal indépendant, et pour ton avant-première, solution locale pour désordre global, on compte sur toi. Bisous à tous, ciao viva, portez-vous bien.
Bonjour, c'est Jean-Pierre Vallès dans le Gard pour vous dire que la prochaine rencontre Café Repère aura lieu donc à Alès au lieu habituel, soit au Vintage Bake Café, route du pont de Gravilleux, donc à Alès, le mercredi 27 janvier à 19h. A bientôt donc à tous les AMG d'Alès et de ses environs.
La déstabilisation, donc nous on ne savait pas quelle heure il était, on ne savait pas si c'était le jour, la nuit, on était dans une cellule où tout est jaune, il y a un néon au-dessus de notre tête, on ne peut pas dormir.
Ils m'ont mis à poil, ils m'ont fouillé entièrement, vraiment le truc complètement démesuré. C'est une attitude humiliante jusqu'au bout, je crois que de toute façon c'est fait pour ça, rabaisser les gens au maximum, quoi. C'est fait réellement de cette façon.
On m'a attaché au radiateur. De là, ils m'ont démenotté. Ils m'ont fait mettre tout nu donc devant ces gens, à me faire tourner pour bien m'humilier.
Le résultat est là. On vit dans un état de suspect. Et moi, je, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie J'y suis avec Charlotte Perry. Garde à vue, à bas la but.
Flight number 2, arriving from New York.
Comme chaque soir depuis deux semaines, Fouad et Eric retrouvent leurs amis de la cité du Gai Logis au Bourget.
France 3, 11 novembre 2005.
Ils viennent d'apprendre il y a quelques minutes la suspension des policiers du commissariat de la Courneuve. C'est Fouad qui a déposé plainte contre ces policiers. Ces derniers l'ont violemment frappé au cours de son interpellation lundi soir.
Ça, c'est la plainte de l'IGS, là, monsieur. C'est la plainte de l'IGS. Il y a tout ce qui s'est passé, monsieur.
Dans sa plainte à la police des polices, le jeune homme accuse plusieurs fonctionnaires de l'avoir frappé à coups de poing et de pied alors qu'il venait d'être remis en liberté après 48 heures de garde à vue.
48 heures de garde à vue gratuitement. Ils m'ont mis des pointus dans la tête, ils m'ont défoncé.
La justice soupçonne trois de ces policiers d'avoir rédigé un faux procès-verbal d'intervention pour couvrir leurs gestes. Le passage à tabac du jeune homme avait été filmé par hasard par nos confrères de France 2. La réaction du ministre de l'Intérieur n'a pas tardé.
J'ai pris la décision de sanctionner les 8 fonctionnaires. Je n'accepterai aucun débordement des forces de l'ordre.
Il n'est pas bien, hein ? Il n'était pas bien, notre président, quand il parlait comme ça. Ferme.
Hein ?
C'était le 11 novembre 2005 sur France 3. Ouh, tout ne baisse pas dans notre pays. Il y a des activités qui augmentent. Les gardes à vue, par exemple, 562 083 gardes à vue en 2007. Contre seulement 336 718 en 2001. 200 000 de plus depuis l'arrivée au pouvoir de celui qui vient de parler, Nicolas Sarkozy. En 2008, 1% de la population française a été mise en garde à vue. En 5 ans, le nombre de gardes à vue a augmenté de 54%, ce qui nous hisse au niveau de la Turquie. Alors voilà, l'état social recule, l'état pénal progresse. Bien sûr, c'est pas encore Goebbels, c'est le goulag, mais c'est tout de même une extension du domaine du contrôle, car bien sûr, il n'y a pas que la garde à vue. Peu à peu, nous devenons une société en liberté surveillée. Pourquoi de plus en plus ? Bien sûr, Monsieur Sarkozy et ceux qui l'ont élu et la mouvance politique à laquelle il appartient à une tradition sécuritaire. Mais la gauche libérale avait déjà amorcé ses politiques pour montrer à quel point elle n'était pas laxiste, cette gauche-là. Que s'est-il passé dans, si on prend un peu de recul historique, jadis, dans les 30 Glorieuses, dans les années 50-60, la délinquance trouvait un terme dans le travail. Les vilains blousons noirs, parlez de ça à vos grands-parents, les vilains blousons noirs qui défrayaient la chronique se retrouvaient à un moment ou à un autre, eh bien, au boulot, à l'usine, au service militaire. Tout ça avait des effets de ça calmait le monde, ça cadrait, et il y avait une volonté générale de réinsérer, de réinsertion. Avec le développement du néolibéralisme, du libre-échange, de la guerre de tous contre tous, ces sociétés structurantes ont disparu. Et on assiste de plus en plus à une société d'individus livrés à eux-mêmes et qu'on ne sait plus comment contrôler. Alors, développement de la société de contrôle, développement de toutes sortes de formes de contrôle. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001 qui a vu se développer toutes ces politiques et ces mesures policières et ces mesures de contrôle sur les populations. Aujourd'hui donc, on s'intéresse à la garde à vue. Beaucoup de Français sont passés, ont eu affaire et ont témoigné sur ces gardes à vue. Charlotte Perry a enquêté. C'est dommage que notre Charlotte n'ait pas rencontré Xavière Tibéri. Parce que Madame Xavière Tibéri, eh bien, elle aussi, elle est passée en garde à vue. Et ça l'a beaucoup frappée. Elle a pensé que c'était comme Buchenwald. Comparer la police française au SS, dans la bouche de Madame Tibéri, c'est quand même très fort. Voilà pourquoi, entre autres, nous sommes ensemble jusqu'à 16h, chers AMG. À bas l'abus, à bas les gardes à vue.
Mon policier, à la police, sa moustache, elle n'est pas un postiche. Son doux regard, pétille de malice, lorsqu'on l'âme doux avec un bachiche. Enfin gourmet, il va au manif, sans préjugé, il frappe au jugé. L'ancien Rangers, il est super actif, il fait du dégât dans le camp des agités. Il grogne souvent lorsqu'il est en faction. Il voit passer les jeunes, ça c'est son obsession. Ce qu'il lui faudrait, c'est un peu d'action. Un passage à tabac, une arrestation. Moi je l'aime comme il est. Je le trouve fier, allure, suspicieux et zélé. Il est décent. Fière, allure, suspicieux et serré. Mon policier, j'aime qu'il me parle, qu'il me questionne. Oh, j'aime qu'il me frappe, oh oui, qu'il me sermonne. Avec lui, c'est tous les soirs.
Donc moi je suis là depuis 33 ans, je crois me souvenir. J'ai travaillé dans une entreprise qui était ici, qui a disparu, qui occupait 300 personnes. J'ai été directeur administratif et financier pendant 17 ans à cette entreprise, plus 12 ans dans une autre. Bon, j'ai une tendance plutôt, de par ma formation, plutôt économique. Donc je suis en partie pour une société un peu libérale. Je suis à la retraite maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai 71 ans cette année. Voilà, donc j'essaie de vivre comme un bon père de famille dans cette ville. Je ne suis pas un fou de la voiture, je ne suis pas un fou de quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, en gros, pour vous situer un petit peu le paysage.
Voilà, le paysage, eh ben, c'est Michel Boulet, il vient de vous le dire. C'est le contraire d'un enragé, le contraire d'un terroriste. Il habite le Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, un département cossu. Il a travaillé 30 ans comme directeur administratif et financier d'entreprise. Et voilà ce qui lui est arrivé le 9 décembre à monsieur Michel Boué, 71 ans, retraité.
Alors, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé.
Eh bien, ça s'est passé sur cette place. Je suis rentré un soir, ma femme était allée à Paris, je suis allé chercher l'autobus. C'était le 9 décembre, exactement. Là, je l'ai pris en charge, et puis on est venu sur la place. J'ai cherché une bouteille de Beaujolais, que j'ai d'amis, qui devait passer. Bon, il y avait pas mal de monde à cette heure-là, il devait être à peu près 18h, je pense. Pas facile de stationner, sinon descendre au parking, mais comme j'en avais pour très peu de temps, je me suis dit, je vais garer ma voiture en double file comme les autres. À ce moment-là, la voiture de patrouille de la police municipale est arrivée. Ils sont sortis comme des diables de leur boîte, de leur voiture de patrouille, et ils ont commencé à s'agiter beaucoup. Donc, l'agent féminin qui était là m'a apostrophé assez rudement, je dirais, et du genre, circulez, pas stationné ici. Bon, ça m'a un peu énervé. Je dis, écoutez, j'en ai juste pour deux minutes, j'entre, je sors de la boutique. Elle m'a dit sur ce, eh bien, je vais vous verbaliser. Je lui dis, en colère, je lui dis, bon, bah, verbalisez-moi. Puis, je suis rentré dans la boutique, je suis ressorti. Elle est en train de remplir son PV. Je suis monté dans la voiture, j'ai mis le moteur en route, j'ai voulu démarrer. À ce moment-là, elle s'est mise à l'avant droite de la voiture, pratiquement collée sur mon aile, et elle voulait m'empêcher de partir. J'ai essayé de démarrer, voyant que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté, j'ai mis le frein à main, je suis sorti. À ce moment-là, ses collègues se sont précipités sur moi, ils m'ont dit, on a vu, vous avez voulu l'écraser. Ça a un peu dégénéré, je me suis énervé. Il n'y a pas eu d'insulte, quand même. Je me suis énervé, genre, vous êtes que la police municipale, et puis c'est moi qui vous paye. Enfin, voyez, un petit peu, la mayonnaise a monté très très vite. Donc, ils m'ont emmené au commissariat, toute sirène hurlante dans la voiture. En cellule, j'ai eu le droit à la garde, à mise en garde à vue, c'est-à-dire à poil, déshabillé, fouille des affaires, retirer les lunettes, retirer les alliances, enfin tout, vraiment, la garde à vue complète. J'ai pris ça assez mal physiquement parce que, bon, j'ai fait un infarctus au mois de mai dernier. Bon, je me suis senti très, très, très oppressé. J'ai demandé un médecin. Le médecin est arrivé à peu près une heure après, je pense, un médecin du SAMU, qui m'a examiné, qui a trouvé que ma tension était montée très haut, donc il n'a pas voulu prendre de risques. Et finalement, ils m'ont emmené à Marie-Lanne-Longue. Alors, en urgence, avec les perfusions un peu partout, le masque oxygène, bon, bref, le grand jeu. Et vers une heure, que je ne peux pas dire parce que j'ai perdu un peu la notion du temps à ce moment-là, un supérieur est arrivé du commissariat de Clamart me disant, voilà, je suis l'officier de service la nuit, je vous ramène vos affaires, et la garde à vue est suspendue. Voilà. Donc, merci, au revoir, et il est parti avec ses gardiens. Donc, j'ai plus de nouvelles jusqu'il y a une dizaine de jours où j'ai reçu une convocation. Enfin, j'ai été convoqué au commissariat de Clamart sans autre explication. Donc, tout à fait innocemment, j'ai pris ma voiture, je me suis rendu au commissariat de Clamart gentiment, et là, je me suis présenté à l'officier de police judiciaire. Celui-ci, après ma revue, m'a dit, écoute, je vous remets immédiatement en garde à vue. Bah, je dis, ah bon, pourquoi vous craignez que je m'enfuis? Ça fait un mois et demi que je suis venu, et je ne me suis pas enfui, je ne me suis pas soustrait à la justice ni à l'enquête. Mais on me met en garde à vue. Bon. Alors, entre-temps, j'ai eu aussi l'aspect anthropométrique, c'est-à-dire que j'ai eu la photo, les empreintes, le prélèvement biologique, l'ADN, tout. Enfin, j'ai eu c'est une humiliation assez... Première fois que ça m'arrive, d'ailleurs. Alors, c'est assez humiliant, quand même, hein, parce que vraiment, j'ai eu l'impression d'être quelque part un criminel. J'avais trafiqué de la drogue ou je ne sais quoi. Moi, j'ai eu l'impression d'être un criminel. Bien, on m'a remis en cellule. Et l'agent en question s'est pointé, je ne sais pas quelle heure il pouvait être. J'ai perdu la notion du temps. Bref, on a été confrontés dans le bureau, elle a persisté dans ses déclarations. Moi, j'ai persisté dans les miennes. Alors, on m'a dit après que je lui avais roulé sur le pied et que ce qui m'était reproché, c'était des violences aggravées. Donc voilà, donc, bah, c'est pour ça que ça les justifiait, ma mise en garde à vue, parce qu'en fait, c'était plus une contravention, c'était un délit, donc passible de la correctionnelle. Et pour l'instant, ça en est resté là. Donc, je m'ai remis en cellule et une demi-heure après, ils m'ont relâché. Donc, je l'ai mal vécu, et puis psychologiquement, je l'ai mal vécu aussi. Je suis fiché au fameux stick, là, au pic. Hein. Bon, c'est pas mortel, mais c'est psychologique, quelque part. Je me sens dans la peau d'un criminel. Et ça, c'est extrêmement désagréable. C'est ce que j'ai dit à mon avocat. On fera tout pour aller jusqu'au bout. On est en train de voir si on peut pas poursuivre pour détention abusive ou garde à vue abusive. Ouais. Parce que là, je l'ai pas digéré. Je suis calme, je suis gentil, mais à l'intérieur, je peux vous dire que ça bouffe.
Alpha. Alpha.
Ils sont comportés comment avec vous ?
Ah ben les policiers m'ont défait, ils ont été très... J'ai déclaré dans ma lettre au maire, j'ai déclaré que j'ai eu peur de ce que j'ai vu dans les yeux du flic qui m'a interpellé. J'y ai vu arrogance, défiance, envie d'humilier, désir de quelque part de vous rabaisser dans la voiture. Ce qu'ils m'ont dit, monsieur, on va vous apprendre ce que c'est que le respect. Je dis, tiens, qu'ils vont passer à tabac. En fait, non. Alors j'attends toujours l'explication de ça. Tout le monde les appelle les cow-boys. Et c'est vraiment un terme général, ça fait 15 fois qu'on me le dit, c'est les cow-boys du Plessis. Ce qui m'a gêné le plus et ce qui m'amène à réagir, c'est que lorsque je suis arrivé à l'hôpital le soir, les infirmières se sont un peu inquiétées de voir un monsieur admis en urgence avec deux flics qui le suivaient. Et après, quand j'ai parlé avec elles, elles m'ont dit « Mais qu'est-ce qui vous se passe ?» Alors, je leur ai expliqué normalement ce qui s'était passé. Elles m'ont dit « Mais monsieur, avec ces gens-là, il faut s'écraser. » Ah bon ? Bien. Et trois jours après, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé voir mon cardiologue. Et qui m'a dit « Oh, monsieur, laissez tomber, il faut s'écraser avec ces gens-là. » Deux fois, trois fois, quatre fois qu'on me dit ça. Ça me fait sauter au plafond. On est quand même encore dans une démocratie. Hein. Donc, je pense que là, il faut réagir.
Et là, ce serait à refaire ? Vous vous écraseriez comme on vous l'a conseillé ou...
Bon, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être parce que j'y réfléchirais quand même. J'aurais peut-être pas envie d'être dans la même situation. Je l'ai pris comme une agression, en fait. Même s'ils m'ont pas tapé dessus. Je vous dis, ce que je vis dans les yeux du flic, ça m'a vraiment fait peur. Pas peur physiquement sur l'instant, mais peur parce que je me suis dit, ils détiennent un pouvoir que je n'ai pas et ils peuvent faire pour ce qu'ils veulent. Alors si on n'en apprend pas à être un peu plus circonspect, faut un peu s'inquiéter, quoi. On n'empêchera jamais les gens, quand ils ont un uniforme et une étoile de shérif, de vouloir jouer au shérif. Dès qu'on met un uniforme sur le dos de quelqu'un, il se transforme quelque part. Il représente une parcelle de l'autorité, même toute petite, et je pense que ça monte un peu la tête, quelque part.
Vous avez déjà entendu une histoire comme celle qu'on vient d'entendre. Probablement 560 000 Françaises et Français ont été mis à l'ombre l'an passé. La garde à vue, je le rappelle, a augmenté de 54% en France. C'est une exception française qui permet aux flics d'enfermer n'importe qui si bon leur semble. On entendait tout à l'heure notre cher président Nicolas Sarkozy. Il faut rappeler qu'en 2003, après toute une série de bavures, Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'était ému et indigné devant une telle situation. Et dans une instruction en date du 11 mars 2003, il constatait que, je cite, « Trop souvent encore, les conditions dans lesquelles se déroulent les gardes à vue sont insatisfaisantes. En termes de respect de la dignité des personnes, cette situation n'est pas à l'honneur de notre pays, elle n'est pas admissible dans la patrie des droits de l'homme. » Fin de citation. Sauf qu'il faut faire du chiffre. Et le 2 février 2007, dans une note remise aux directeurs départementaux, le ministère de l'Intérieur, le même ministre de l'Intérieur que je viens de citer, expliquait que le nouveau taux d'efficacité de l'activité policière serait dorénavant calculé en fonction du nombre de gardes à vue, c'est-à-dire les GAV, G-A-V, et traduit en langage flic, ça veut dire plus on met de clients au chaud, plus les chefs seront contents. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Qu'en pensent les gens de la justice? Qu'en pense quelqu'un comme Serge Portelli, vice-président au tribunal de Paris?
Je suis magistrat, je m'appelle Serge Portelli, je suis vice-président au tribunal de grande instance de Paris et membre du syndicat de la magistrature. Il est évident que ces gardes à vue sont abusives. Là, je regardais justement les chiffres de la garde à vue. On en est à 577 000 gardes à vue en 2008. Voilà. Donc, c'est même plus une augmentation, d'ailleurs, c'est une explosion. Si vous regardez les chiffres depuis 2001, on est est passé d'environ 330 000 gardes à vue à 577 000. Je veux dire, quand en 7 ans, on en est presque à doubler le nombre de personnes interpellées en France, alors qu'à la même période, on essaye de nous faire croire que la délinquance a baissé, il y a quelque chose qui cloche. On veut faire du chiffre, sans évidemment qu'il y ait la moindre réflexion sur ce que ça représente. Et vous savez, c'est pas moi qui le dis, les policiers en ont assez de faire des crânes, de faire des bâtons, de faire de la statistique. La moitié des interpellations en France pourrait très bien ne pas avoir lieu. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'à la fin de la garde à vue, l'immense majorité des gens ne part pas en prison. Le gouffre entre le nombre de personnes qui ont été placées en garde à vue l'année dernière, enfin il y a deux ans, 560 000, et le nombre de personnes qui ont ensuite été placées en détention, un peu plus de 60 000, c'est incroyable. À quoi ça sert d'utiliser cette mesure qui est profondément archaïque, qui est moyenâgeuse, qui aboutit parfois à des résultats, mais qui parfois est totalement injustifiée, pour aboutir simplement, je veux dire, à ce chiffre-là de mise en détention. Je veux dire, il y a une disproportion, il y a une discordance, et moi j'allais dire, il y a une incohérence, qui prouve que la majorité des gardes à vue, ou j'allais dire franchement, la moitié des gardes à vue, est en France totalement inutile. Comment voulez-vous que les relations s'améliorent entre la police et la population, quand finalement cette population, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, devient une population de suspects? On sait déjà qu'il y a 25 millions de personnes qui sont fichées au STIC, avec énormément d'erreurs. Il y en a
le STIC, c'est ?
Le STIC, c'est le plus gros fichier de police qui recense les personnes qui ont été arrêtées ou qui ont été victimes. Voilà, le résultat est là. On vit dans un état de suspect où effectivement on risque quand même de plus en plus de se faire contrôler, on risque de plus en plus, c'est pas qu'on risque, on est déjà tous quasiment dans un fichier, à tort ou à raison. Et c'est cette politique globale, je veux dire, de la peur et de la suspicion qu'on vit tous. Enfin moi, j'habite près de la mutualité, samedi dernier, vous aviez des policiers partout. Et moi, devant le trottoir vide, je demande à un CRS, est-ce que j'ai le droit de marcher? Et il m'a répondu, oui, mais doucement. Et moi, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect. Quand je vois un policier, maintenant, quand je vois 15 quarts de CRS dans la rue, ce qui est quand même relativement fréquent, je ne cours plus, je marche doucement. Voilà.
Je m'appelle Baptiste. Je suis lycéen à Léonard de Vinci, en terminale, et je milite pour le droit au logement dans la ville. Les logements sociaux, c'est ça qu'on dénonçait avec le collectif logement, c'est que c'est des logements sociaux qui coûtent beaucoup trop cher pour des gens qui en auraient réellement besoin. Donc en général, on prend le prétexte de construire des logements sociaux, mais c'est des logements intermédiaires, voire enfin, on peut être cadre pour pouvoir se payer ces logements-là. Donc nous, on ne considère pas que c'est des logements sociaux. Hein. On refait la ville en plus belle, on expulse les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont pauvres et qui font une mauvaise image à une ville riche comme Levallois, et on les fout dans des endroits où les municipalités peuvent les accepter, comme à Nanterre, à Gennevilliers, etc. D'une certaine manière, on éradique tout ce qui est un petit peu moche et ce qui fait un petit peu pauvre pour mettre du moderne et du riche, quoi.
Et toi, tu es ?
Vincent, et je suis aussi au lycée Léonard de Vinci.
Voilà, Baptiste et Vincent, lycéens à Léonard de Vinci, à Levallois, oui, Balkany, bien sûr, la bonne ville du bon monsieur Balkany. Et qu'est-ce que c'est que ces jeunes-là, à 17 ans, ils n'ont rien d'autre à faire que de militer pour le droit au logement. En tout cas, voici leur histoire.
Et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé le 17 novembre ?
En fait, ça fait plus de deux ans que ce collectif il existe. Le collectif qui s'appelle Mouvement Solidaire pour le Logement. Et le 17, en fait, ça faisait plus de 6 mois que le maire refusait de nous recevoir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé simplement au conseil municipal pour attirer son attention sur les problèmes de logement, alors qu'on était plutôt calme, hein, sauf qu'on parlait un petit peu, hein, comme dans un cours dans lequel on s'emmerde. Et bah, le maire a demandé qu'on se fasse évacuer, et la police est venue, on s'est fait saisir, on s'est fait sortir. On n'a pas été violent, nous, notre but était simplement politique, c'était d'avoir un rendez-vous avec le maire. Et on a été 17 à être emmenés au commissariat, 2 à être placés en garde à vue. Et enfin, on ne sait toujours pas à l'heure qu'il est, pourquoi c'est tombé sur moi et Vincent, alors qu'on a eu la même attitude que les autres. Non seulement tous les autres ont été relâchés, mais tout le monde ne s'est pas fait évacuer. Par exemple, les gens les plus âgés du collectif ne sont pas fait évacuer.
Moi, j'ai été emmené avec, donc avec 16 autres personnes dans ce qu'on appelle le dépôt. C'est le lieu où on nous garde pour vérifier notre identité. Et comme ils nous connaissent, bah, non seulement parce qu'on fait des manifs devant la mairie, mais aussi parce qu'on est connu sur le lycée pour bloquer le lycée, et bah, ils m'ont appelé, ils m'ont placé dans une salle. Puis ils m'ont dit que j'étais placé en garde à vue pour violence sur policier. Alors que même plus tard dans le dossier, il s'est avéré que, bah, en fait, il n'y a aucun policier qui dit que j'ai été violent avec eux. Moi, si j'ai pris ces 48 heures de garde à vue et cette mise en examen, c'est parce que j'aurais tenté de vriller sur moi-même.
Et donc, elle a été reconduite, parce que normalement, c'est 24 heures une garde à vue.
On ne nous a pas donné vraiment de prétexte. Les seules phrases que le substitut du procureur de la République m'a dit, c'est « je reconduis votre garde à vue de 24 heures parce que je vois dans votre dossier des éléments de violence sur des ponts. On ne savait pas quelle heure il était, on ne savait pas si c'était le jour, la nuit, on était dans une cellule où tout est jaune, il y a un néon au-dessus de notre tête, on ne peut pas dormir. Moi, on m'avait enlevé mon pull parce que, soi-disant, il y avait une lanière, donc j'aurais pu me suicider avec. Donc ça a été 48 heures dans le froid, sans dormir, sans savoir quelle heure il était, complètement perdu, juste à s'attacher à ses convictions, à savoir qu'on n'avait rien fait, mais c'est de la déstabilisation totale, hein. La lumière jaune qui tape sur la tête, le bruit des clés dans la serrure, tout ça, c'est des choses qui sont gravées dans nos mémoires et qui sont complètement injustes.
Je suis Catherine Le Guernec, je suis conseillère municipale socialiste, donc d'opposition à Levallois-Perret. Et bien sûr, j'étais là lors de ce fameux conseil municipal où les jeunes n'ont absolument pas perturbé, ils n'ont absolument pas ni vociféré, il n'y a pas eu de manifestation, si vous voulez. Et ils faisaient infiniment moins de bruit qu'en ont jamais fait ce que nous on appelle la claque Balkany, qui eux vocifèrent, sifflent, applaudissent, hurlent l'opposition dès qu'elle ouvre la bouche. Et le maire n'a jamais fait évacuer le conseil municipal, hein. Vous savez très bien que le maire a un ami et des amis très haut placés. Donc lui aussi, il veut des statistiques. Il en a besoin. Des arrestations pour montrer et puis aussi justifier les 83 caméras qu'il y a dans notre ville.
C'est une ville ultra sécuritaire, Levallois, qui joue avec la peur des gens, qui nous fait passer pour des voyous, pour des délinquants, alors que nous sommes des militants politiques. Il y a une vraie criminalisation des actions militantes en France et en particulier dans cette ville. En vérité, c'est ça qu'on nous reproche et il n'y a pas d'argument juridique pour nous reprocher ça. Donc on cherche de la petite bête qui n'existe pas en vérité.
Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial. Il ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leur conviction politique, religieuse ou philosophique.
Auteur d'un projet qui fait peur à Frédéric Lagachette, je suis l'ennemi des corrupteurs, un fait que personne n'achète, qui dit tout haut ce qui se pense en cachette. Détraqué dans la machine de dissuasion, loin de ce qu'on s'imagine, sur mes révélations, j'écris mes cris, c'est ce qui m'aide, me libère de certains que je soupçonne d'être membre de gangs de skinhead. Je fais l'objet d'une rançon chez les fabricants des métiers, parce que dans mes chansons, je dénonce les dérives de mon métier. Qui vit dans l'attente d'une balle dans la tente, brigadier, j'assume d'avoir tronqué mon compas contre une plume. Des déboires, j'écris des vers, de la vie du voir à la vie de consommation. Je reste un bricard, loin des vapeurs de Ricard, car à quoi vous parlez si le changement vient de l'action.
Police corrompue, on sait tous comment ça se passe. Faut du quota, faut du chiffre, du basané, des gardes. Répression officielle qui matraque sur la misère. Des gosses en rétention, ça empêche pas de dormir le commissaire. Ça manie le flashball pour semer la terreur. 2007, y'a des fachos au ministère de l'Intérieur. Un des vôtres est avec nous pour cracher tous vos travers. C'est leur choisir son camp, l'ami, on nous a déclaré la guerre.
Il y a de très très bons fonctionnaires, ça je tiens à le souligner, des fonctionnaires avec qui j'ai travaillé, franchement c'est des fonctionnaires responsables et respectables, vraiment très 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 humains. Et eux, j'ai pris plaisir à travailler avec eux, et s'il n'y avait que des policiers comme ça, bah, franchement je serais resté dans la police en toute sincérité. Mais il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils ont un uniforme, bah, on ne les reconnaît plus. Hein. Moi, j'avais des collègues que je côtoyais en civil et quand ils avaient un uniforme, c'était pas les mêmes. Hein.
Ah bah justement, ça tombe bien. Ça tombe bien. En voilà un. En voilà un. Flic. Nicolas Comte, du secrétaire général du syndicat de police SGPFO, syndicat général de la police, force ouvrière, qui, évidemment, sur ses gardes à vue, a un avis.
Alors moi je suis Nicolas Comte, je suis secrétaire général du SGPFO, Syndicat Général de la Police Force Ouvrière. Il y a eu une très nette augmentation du nombre de gardes à vue ces dernières années. Tout ça étant lié avec la politique d'objectifs de résultats chiffrés qui a été mis en place à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Et si l'augmentation du nombre de gardes à vue n'est pas choquant en soi, parce que ça veut dire à la limite que les services de police travaillent plus et travaillent mieux, ce qui quelquefois peut poser problème, c'est éventuellement qu'on soit non plus sur la qualité du travail qu'on va fournir, mais uniquement sur la quantité, et on travaille sur de l'humain, et le travail de policier doit être toujours un travail de qualité et un travail fait avec discernement.
Mais donc, l'augmentation du nombre de placements en garde à vue, ça veut dire que c'est des résultats positifs? Ou est-ce que ça signifie vraiment qu'on a arrêté plus de délinquants?
Oui, l'augmentation du nombre de gardes à vue signifie qu'on a interpellé plus de délinquants. Ce qu'il faut voir derrière, c'est de voir si l'augmentation du nombre de gardes à vue correspond à une augmentation du nombre de condamnations par la justice. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on ne fixe des objectifs qu'en termes de chiffres, on a finalement un travail qui ne rime plus à rien. Le chiffre juste absolu, comme ça, brut, ne veut strictement rien dire. Si vous faites 5 interpellations suivies de 5 gardes à vue, parce qu'on vous a fixé un objectif de 5, par exemple, dans la journée, eh bien on va mettre sur un pied d'égalité 5 interpellations et 5 gardes à vue pour 5 lycéens qui fumeraient un joint. Ça correspondra à la même chose que des interpellations pour des braquages. Et à la limite, si on va au bout du raisonnement, parce que ça c'est le raisonnement par l'absurde, quand on fait cette religion du chiffre, 5 interpellations pour 5 fumeurs de joint, c'est mieux que 2 interpellations pour braquage. Parce que on ne se focalise que sur le résultat chiffré, et non pas sur la qualité du travail effectué. Donc c'est ce que nous dénonçons dans la logique du chiffre. La police est au service de la population et pas uniquement un outil répressif. Donc il faut véritablement qu'il y ait un bon équilibre qui soit fait entre les choses, de manière à ce que le policier ne soit pas vu comme un ennemi.
L'activité policière a parfois pour corollaire des abus, des excès, des manquements à la déontologie.
France 2, 12 avril 2006.
La Commission nationale de déontologie de la sécurité dresse cette année un constat inquiétant.
Il y a une circulaire très intéressante du ministère de l'Intérieur du 11 mars 2003.
Pierre Truche.
Qui dit qu'il faut respecter la dignité des personnes en garde à vue, et notamment ne pas les menotter si c'est pas nécessaire, et surtout ne pas les fouiller à corps, c'est-à-dire étant mise nue. Or, nous constatons dans nombre de dossiers que cette circulaire n'est pas appliquée.
Enfin, c'est pas fini. Je pense que c'est fini. Mais sauf s'ils font appel, ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, mais...
Donc ça s'est passé quand, déjà, cette histoire?
C'est passé au mois de juin. Tout simplement, je prenais mon train, comme d'habitude, en gare d'Orsay. Donc je monte sur le quai avec un billet que je composte. Je m'en rappelle très bien, parce que je l'ai mis dans une machine qui me l'a refusé, je l'ai mis dans une deuxième machine, il est rentré, il est ressorti, bon, je n'ai pas vérifié, je l'ai mis dans ma poche. Et j'arrive sur le quai, il y avait des contrôleurs. Je les regarde et je monte avec eux dans le train. Ils me demandent mon billet, le contrôleur qui me contrôle me dit « Monsieur, vous n'avez pas validé votre titre de transport ». Alors je regarde étonné, je fouille dans mes poches, c'était le seul billet que j'avais, et je lui dis « Si, je l'ai validé, j'en suis persuadé, je lui raconte ma petite histoire avec les machines ». En lui disant que vraisemblablement la machine fonctionnait pas bien. Et il me dit, c'est pas possible. Très bien, donnez-moi vos papiers, on va vous verbaliser. Et alors je lui explique que non, moi j'ai payé mon billet. Il est hors de question que je lui donne mes papiers, etc. Donc ça dure pendant tout le trajet. Et puis arrivé à Luxembourg, il me bloque sur le quai. Et arrive la police, et puis je leur dis, ah, vous arrivez, c'est très bien, je vais pouvoir vous expliquer l'histoire. Et avant même que j'explique mon histoire, la police me demande mes papiers. Je leur donne immédiatement. Ils contrôlent mes papiers, ils me fouillent. Ils me demandent de me retourner contre le mur, de mettre les mains à plat contre le mur de Luxembourg, et ils me font une fouille au corps très serrée. Et puis après, ils me disent, bah, allez-y maintenant, racontez votre histoire. Et à la suite de ça, bah, ils sont mis à me verbaliser. Alors en stéréo, j'avais donc la police qui me mettait un PV, et puis la RATP qui me mettait un autre PV en même temps. Et là, j'ai commencé à dire, mais arrêtez, vous n'allez pas me verbaliser, alors que j'étais dans le train avec un ticket, qu'est-ce que ça veut dire? Et à ce moment-là, ils ont dit « bon, bah ça suffit maintenant ». Ils m'ont fait une clé de bras, ils m'ont mis face contre terre, un pied sur la tête, en tirant sur le bras. D'ailleurs, j'ai eu mal au bras pendant un bon mois derrière. Monotte, bien évidemment, bien serré, à bloc. Après, ils m'ont emmené jusqu'à un local à côté des guichets de Luxembourg. Franchement, c'était vraiment très brut. Alors je dis à un policier, mais vous êtes obligé d'être aussi violent. Et il me répond, de toute façon, j'en ai rien à foutre de ta gueule, textuellement. Donc il me remet de face contre terre, avec un pied sur la tête. Et ils m'ont transféré pour la nuit au commissariat de Gare du Nord. Alors j'ai eu droit au camion avec le coude dans les côtes de la part d'un policier à qui j'ai encore dit, mais vous êtes obligé de me mettre le coude dans les côtes, je pouvais pas m'asseoir dans le camion. Et après j'ai été mis en garde à vue. Alors c'était ma première garde à vue, hein. J'avais jamais eu de problème avec la police ni avec la RATP d'ailleurs. Si j'ai eu un PV ou deux dans ma vie, c'est bien le maximum et ça fait bien longtemps. Je me suis retrouvé dans une cellule, ça doit faire 12 mètres carrés, on était trois dedans, ça hurle, c'est le truc sans fenêtre et bariolé de partout. Pour aller aux toilettes, faut taper comme un sourd et les flics passent au fond dans le couloir et disent « Ouais, c'est ça, on arrive ». Et puis c'est très sale, les toilettes, c'est infâme. En plus, interdit de fermer la porte, bien évidemment, et la cellule est dans un état lamentable. Il y a des traces de, on se demande si c'est pas des girets, pas d'excréments, mais on se demande, je pense que c'est de la nourriture que les gars étalent sur les murs, je sais pas, mais c'était vraiment très très sale. Ils m'ont mis à poil, ils m'ont fouillé entièrement, ils m'ont fait une prise d'ADN, c'est un coton dans la bouche, c'est photo déjà pour être fiché, alors photo, profil, face, etc. Et après, coton avec prise d'ADN des muqueuses, prise complète de toutes les empreintes des doigts, etc. quoi. Enfin, vraiment le truc complètement démesuré. C'est une attitude humiliante jusqu'au bout. Je crois que de toute façon, c'est fait pour ça. Pour mettre les gens dans une situation d'humiliation et d'énervement et de rabaisser les gens au maximum, quoi. C'est fait réellement de cette façon. Donc j'ai passé une nuit épouvantable. Je crois que j'ai vu le policier le plus conciliant, le plus compréhensif. Je l'ai vu à la toute fin de la garde à vue, quand il a donc 24 heures après. Quand un gars est venu me chercher, il m'a dit « Oh, c'est pas bien grave ce qui vous arrive. » Oui, je pense bien, ça faisait 24 heures que j'étais en garde à vue pour un défaut de titre de transport que j'avais en plus et que j'avais payé. Et lui était un peu plus conciliant, il m'a dit « Vous allez avoir un juge pour une conciliation. »
Des histoires comme celle-là, des milliers, il y en a des milliers de témoignages comme ceux que vous entendez aujourd'hui. Alors vous, c'est Sarkozy. Oui, bien sûr, avec le président, notre président, le nombre de gardes à vue a augmenté. Mais n'oubliez pas, la sécurité est la première des libertés. Ce leitmotiv de Nicolas Sarkozy a été repris de son prédécesseur, Jacques Chirac, qui lui-même l'avait emprunté à son prédécesseur, un certain Lionel Jospin. Il avait prononcé cette phrase, « La sécurité est la première des libertés », en octobre 1997. Et ça, c'était une rupture, parce que la gauche avait pour tradition l'État social, et puis la droite plutôt l'État pénal. Je caricature, mais enfin la sécurité, c'était évidemment un thème traditionnel de la droite. La gauche, pour des raisons qui lui appartiennent, enfin la gauche libérale, pour des raisons qui lui appartiennent, a emprunté ce thème-là, si bien que c'est une succession. Mais on l'a vu, on a essayé de l'expliquer tout à l'heure, ça n'est pas seulement une question de gouvernement ni des choix, c'est aussi un mouvement plus profond de nos sociétés et des grands courants idéologiques qui la dominent et inconsciemment la conduisent. Voilà l'histoire, la fin de l'histoire de Laurent.
Donc à l'issue de ça, j'ai eu donc une audience qui a eu lieu 2-3 mois après, en présence des deux policiers sur les trois qui étaient là, un contrôleur qui avait porté plainte parce que je l'avais soi-disant blessé, je ne sais pas comment, apparemment il a voulu me tenir les pieds quand j'étais sur le sol et je lui aurais blessé la main. Il y a un des policiers qui a déclaré que je lui avais cassé deux téléphones portables, donc son téléphone personnel et son téléphone de service, deux d'un coup, je ne sais pas comment j'ai fait non plus. Je précise aussi qu'à l'issue de la garde à vue, il m'avait mis des PV dans mon sac, mais sans me le dire. Il m'avait mis deux PV de la RATP pour défaut de titre de transport, un pour trouble de la tranquillité des voyageurs et un autre de la police pour trouble de l'ordre public. Bon, ça commençait à chiffrer, hein. Les flics ont demandé chacun des dommages et intérêts, un pour son portable qui montait à 500 euros, il me semble, et le deuxième parce que je l'avais poussé, et il demandait 200 euros de dommages et intérêts. Bon, là, la juge a dit, écoutez, on va peut-être pas abuser quand même, et elle a arrêté la situation en me demandant de m'excuser, donc je devais faire 3 lettres d'excuses, et je devais faire une proposition quant au portable. Quand je suis sorti, c'est ça qui est infernal, c'est que quand je suis sorti de cette audience, apparemment, c'était un non-lieu. La possibilité, c'était que les deux policiers voulaient faire appel, parce qu'ils voulaient leur dommages et intérêts. Pour l'instant, j'ai pas de nouveau. Par contre, ce qui se passe, c'est que les PV courent toujours, et majorés, qui plus est, donc je me retrouve avec du 500 euros de PV à payer. À la fin, j'ai dit, bon, bah, j'ai compris, ils sont assermentés, quoi. Ils sont assermentés, et pas moi, donc j'ai rien à dire. Ça fait peur, ça fait très très peur. Bah, d'être dans un espèce d'engrenage où de toute façon, il y a effectivement une procédure, il y a des techniques d'interrogatoire, et puis on est en face d'une espèce de machine, et puis on peut rien y faire. On devrait se sentir bien protégé, mais là, j'avais peur, moi. J'avais carrément peur de cette disproportion.
C'était un reportage de Charlotte Perry, suite de ce reportage demain. Merci à Serge Portelli et Nicolas Comte de la SGPFO, à lire Nicolas Sarkozy, une réplique sous haute surveillance de Serge Portelli, publiée le 27 avril 2007 par les éditions L'Armatan. Sachez que toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillé et Julien Chabatsu, réalisation Coyen Guyen, Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. Là-bas,
CSF, bonjour.
Bonjour, je vous appelle car j'ai pris la résolution de faire fructifier mon épargne en 2010.
Vous faites bien. Le contrat d'assurance vie RES en euros a été rémunéré à 4,55% net en 2009.
4,55%?
Oui, le RES est l'un des contrats les plus sûrs et les plus performants du marché, avec un rendement exceptionnel pour tous les professionnels de la santé et leurs proches.
Ah, eux aussi peuvent ouvrir un RES à la MACSF?
Oui, en appelant le 3233 ou en allant dans l'une de nos 80 agences.
Les résolutions, ça a parfois du bon.
MACSF.
Notre vocation,
c'est vous.
France 2.
Dans l'œil du viseur, le chasseur.
Je t'ai jamais obligé à tuer, Samuel. Tu as ça dans tes gènes.
C'est une petite entreprise familiale. La mère s'occupe des contrats, le fils les exécute.
Débarrasse-moi d'eux.
J'ai une solution.
Le chasseur devient la proie. La traque est lancée ce soir à 20h35 sur France 2.
Dans quelques minutes, Frédéric Lodéon pour son Carrefour de l'Odéon. Bonne journée sur France Inter. Il est 16h. Vous retrouvez Clotilde Dumetz pour les informations.
Les chiffres du chômage en France en décembre, ça baisse, comme l'avait laissé entendre Nicolas Sarkozy lundi. 18 700 chômeurs en moins, Philippe Lefébure.
Oui, ça baisse, mais cela dit, ils sont rares, hein, les économistes qui estiment qu'il s'agit d'un vrai retournement de tendance. Dit autrement, cette baisse du chômage ne va pas durer parce que la croissance retrouvée n'est pas encore assez forte pour être massivement créatrice d'emplois. Mais le résultat de décembre est là. Il est bon à prendre. Le nombre de demandeurs d'emploi dans la catégorie A, celle des chômeurs à la recherche de tout type d'emploi et n'ayant pas du tout travaillé en décembre, le nombre de chômeurs officiels a baissé de 0,7%. Sur un an, évidemment, la tendance reste rigoureusement inverse. La hausse est de plus de 18%, y compris en ajoutant les chômeurs qui ont exercé, faute de mieux, une activité réduite. En décembre 2009, les chômeurs de moins de 25 ans ont été moins nombreux. En revanche, le nombre de seniors et de chômeurs de longue durée a continué de progresser. Plus d'un tiers des chômeurs inscrits en décembre à Pôle emploi l'étaient depuis plus d'un an.
Merci Philippe. Combien de gardes à vue en France l'an dernier? Selon notre confrère de France Info, Mathieu Aron, dans son livre Enquête à paraître demain, il y en aurait eu 900 000 en 2009, soit 300 000 de plus que les chiffres officiels. Et effectivement, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a reconnu cet après-midi que ce chiffre officiel ne prend pas en compte les gardes à vue pour les délits routiers ni celles de l'outre-mer. Un camp de Roms évacué par la police à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Le campement s'était installé depuis plusieurs semaines sur un terrain appartenant à l'État en bord de Seine. L'évacuation s'est faite sans incident, selon la police. 83 personnes ont quitté les lieux, dont 28 femmes et 18 enfants, sans accepter les solutions d'hébergement temporaire qui leur étaient proposées. Afghanistan, la conférence de Londres est une perte de temps, selon les talibans. La conférence de Londres doit demain fixer les objectifs à long terme de la présence militaire étrangère en Afghanistan, en particulier le transfert du maintien de la sécurité aux forces afghanes et la question de la réconciliation avec les insurgés. À la veille de cette réunion, l'invité ce soir à 19h20 des questions du mercredi sera Hervé Mora, le ministre de la Défense. Les questions du mercredi, c'est avec Le Monde et Dailymotion. Soyez prévoyants, le trafic SNCF risque d'être fortement perturbé mercredi prochain, après l'appel à la grève lancé par tous les syndicats de la SNCF pour la défense de l'emploi et du fret, ainsi que contre les restructurations. Perquisition dans les locaux du CCE d'Air France, c'est dans le cadre d'une enquête préliminaire dans l'affaire de la gestion contestée du comité central d'entreprise. Les cérémonies du 65e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz ont débuté. Auschwitz-Birkenau est devenu le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Juifs. Sur franceinter.com, un retour sur les lieux vous est proposé par Hélène Roussel, qui a accompagné Charles Gottlieb, un rescapé juif et résistant, et 200 collégiens des Alpes-Maritimes dans ce camp d'extermination. Et puis l'Open d'Australie de tennis, Joe Wilfried Tsonga est en demi-finale. Le Français a battu le Serbe Novak Djokovic en 5-7. En demi-finale, il affrontera le numéro 1 mondial, le Suisse Roger Federer.
And now,
System Disc.
Quand quelqu'un me dit I love you, ça me fait du bien.
Et avec Vali.
Et même il y a une photo un peu suggestive au milieu. Hein,
oui.
Vous allez découvrir.
Sur le dos, sur la console.
Oui, avec un micro dans les mains.
Mmh. Incroyable. System Disc, le vendredi de 22h à 23h.
France Inter présente Norah Jones, The Fall.
En concert à l'Olympia les 24 et 25 juin.
Retrouvez Norah Jones dans le programme musical de France Inter.
France Inter.
La différence.
Et il est 16h04 sur France Inter, l'heure du Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Clotilde. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Quelques nouveautés pour commencer, par exemple les symphonies, l'intégrale des symphonies de jeunesse de Félix Mendelssohn. Le gamin avait 12 ans et il écrivait comme des exercices, comme des devoirs, ses œuvres pour cordes seules. Et finalement, c'est déjà des petits chefs-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup d'élan, il y a de l'imagination, il y a une certaine fraîcheur, mais c'est quand même bien construit et une certaine complexité se fait déjà jour dans la première symphonie. Allegro. Allegro de la toute première symphonie de Félix Mendelssohn, c'était le final interprété dans une nouvelle version par l'orchestre de chambre de Stuttgart dirigé par Michael Hofstetter. C'est publié chez Orfeo et on peut piocher, puisque évidemment il y a beaucoup de mouvements dans ces 12 symphonies, on peut aller vers la quatrième qui comporte un début un peu à la française, enfin dans le style des ouvertures anciennes, baroques en général, avec un moment plutôt solennel, grave, lent, et puis un Allegro qui s'envole assez gaillardement, on va dire. Voici donc un autre exemple du grand talent, du précoce talent de Félix Mendelssohn.